Bonsoir à tous. Paris et Londres sur la voie de l'apaisement, c'est en tout cas ce qu'annonce l'Élysée après la rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Le président français et le premier ministre britannique ont évoqué ce matin le délicat dossier de la pêche post-Brexit. Dans le même temps, Paris et Londres continuent d'afficher leur fermeté. Les États-Unis et l'Union européenne saluent une nouvelle ère dans leurs relations. Washington et Bruxelles ont mis fin à leur différend commercial sur l'acier et l'aluminium. Un accord annoncé en marge du G20 à Rome. Coup d'envoi d'un rendez-vous majeur pour l'avenir de notre planète. La COP26 s'est ouverte ce matin à Glasgow. L'objectif est clair, parvenir à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Mais pour l'instant, aucun pays n'en prend le chemin, nous dira le climatologue Jean Jouzel. Et puis à suivre, l'inquiétante disparition de 3 alpinistes français au Népal, visiblement emportés par une avalanche. Les espoirs de les retrouver vivants sont minces, mais les recherches se poursuivent.
France Inter.
Le brûlant dossier des licences de pêche post-Brexit au menu d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Après plusieurs épisodes de tension, le président français et le premier ministre britannique se sont entretenus ce matin en marge du G20 à Rome. À l'issue de ces brèves discussions, l'Élysée a annoncé que les deux hommes s'étaient accordés sur une désescalade dans les prochains jours. Toujours pas d'accord, en revanche, sur les licences de pêche. Yannick Falt.
Un entretien express, une demi-heure, aucune déclaration au micro, ni son ni image, même pas de photo officielle. Et à l'issue, une tonalité très différente entre les deux pays. Côté français, Emmanuel Macron dit avoir fait passer un message d'exigence, de sérieux, de respect. Respect des règles du jeu et de la signature britannique sur l'accord du Brexit. Mais l'heure est à la désescalade, assure l'Elysée. Douche froide, moins de 2 heures plus tard. Communiqué de Boris Johnson, c'est à la France de favoriser cette désescalade en retirant ses menaces. Quelles menaces ? Interdire aux navires de pêche britanniques de décharger leur cargaison en France et renforcer les contrôles douaniers de camions si aucun accord n'est trouvé. Et leur tourne, la France a lancé un ultimatum à mardi, sauf si l'échéance est repoussée. Reste donc très peu de temps pour s'accorder sur les licences de pêche dans les eaux britanniques. Quelques dizaines de bateaux français seulement concernés, d'après l'Elysée. Rome, Yannick Falt, France Inter.
Et toujours en marge du G20 qui se referme aujourd'hui, les États-Unis et l'Union européenne ont officiellement enterré la hache de guerre sur les droits de douane concernant l'acier et l'aluminium européen. Cette annonce signe la fin de 3 ans de bataille commerciale entre les deux puissances, un conflit qui remonte à l'ère Trump. À Washington, Sébastien Paour.
Joe Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlent d'une étape importante, d'une nouvelle ère. La secrétaire américaine au commerce salue même un accord historique qui relance les échanges entre Washington et Bruxelles, pollués depuis juin 2018, depuis la décision prise par Donald Trump de taxer les importations européennes d'acier à 25% et d'aluminium à 10%. Les Européens avaient répondu en taxant les motos, les jeans ou le jus d'orange américain. Une Harley Davidson était ainsi soumise à 31% de taxes au lieu de 6%, ce qui plombait chaque facture de 2 200 $. À partir du 1er décembre, les États-Unis accorderont des exemptions à des quantités limitées de produits, à condition que l'acier soit entièrement fabriqué en Europe. Cela garantira des matériaux de meilleure qualité et plus propres que l'acier chinois, d'après la Maison Blanche. En échange, Bruxelles renonce à sa décision d'augmenter certains droits de douane à 50% sur les Harley-Davidson ou le Bourbon du Kentucky, notamment. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Une conférence cruciale face à la crise climatique, la COP26, s'est ouverte ce matin à Glasgow, en Écosse. Près de 120 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus d'ici à demain. L'événement doit permettre de sauver l'accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21, en limitant le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Un défi de taille, mais nécessaire, comme le rappelle le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, également auteur, avec Baptiste Denis, du livre « Climat, parlons vrai » paru aux éditions Pérégrine.
Je rappelle quelques chiffres qui sortent du dernier rapport du GIEC. Pour avoir des chances de rester autour d'un degré 5, on n'a plus que 10 années d'émissions de gaz carbonique au rythme actuel, 25 ans pour 2 degrés. On voit bien les difficultés. Quand on parle de 1,5 degré, c'est neutralité carbone à horizon 2050. Même si certains pays l'ont annoncé, aucun n'en prend réellement le chemin. C'est bien ça le problème. Donc, c'est trop tard. Pourquoi ? C'est peut-être trop tard pour 1,5 degré. On a toujours l'espoir que les 2 degrés, les bien en deçà de Hegel, puissent être respectés. Mais il faut faire le maximum parce que l'enseignement des derniers rapports du GIEC, c'est que chaque demi-degré compte et que la vulnérabilité est évidemment au rendez-vous. En termes, par exemple, au-delà de 2 degrés, bien, ce sont l'ensemble des récifs caroliens qui seraient affectés, des vagues de chaleur de plus en plus importantes, des niveaux de la mer un peu plus élevés à la fin du siècle. C'est tout cela qui est devant nous et on a l'impression que les gens ne comprennent pas, malgré les difficultés auxquelles on fait face en termes d'astral climatique, que ce soit en Colombie-Britannique ou même en Europe, à des latitudes qui sont pratiquement des nôtres.
Des propos recueillis par Jules De Kiss. Et de son côté, l'Organisation météorologique mondiale estime que les 7 années, de 2015 à 2021, seront probablement les plus chaudes jamais enregistrées. Le Japon organisait aujourd'hui ses législatives. Selon les premières estimations, la coalition au pouvoir devrait perdre plusieurs de ses sièges tout en conservant sa majorité parlementaire. La journée a également été marquée par une attaque au couteau. Ça s'est passé dans un train de Tokyo. Un homme a blessé au moins 10 passagers, dont un gravement. Il a également déclenché un incendie. Le suspect, âgé d'une 20aine d'années, a été arrêté. Les recherches se poursuivent au Népal après la disparition de 3 jeunes alpinistes français, tous membres du géant, le groupe Excellence Alpinisme National. Ils sont originaires de Nice, Chambéry et Briançon. Ils ont probablement été emportés par une avalanche non loin de l'Everest. Les équipes sur place ont peu d'espoir de les retrouver vivants. Agathe Mahué.
C'est une expédition au Népal près de Lama Dablam qui devait clore le parcours d'apprentissage de ces alpinistes d'élite, Gabriel Miloche et Louis Pachou, tous deux 27 ans, accompagnés par leur coach Thomas Harfi, un Niçois de 34 ans.
On est dévastés, non ? On est dévastés, ouais.
Sur place au Népal, Stéphane Benoît, le responsable de ce groupe Excellence Alpinisme National.
C'était vraiment des grands experts de la gestion des risques, donc on comprend pas bien quel piège ils ont pas su déceler ou qui était peut-être indécelable ou est-ce qu'ils ont fait une erreur. Voilà, pour l'instant, ça nous échappe.
Les 3 jeunes hommes étaient partis comme prévu de leur côté dimanche dernier, créneau météo exceptionnel, à l'assaut d'un sommet vierge de 6070 mètres. Mais le groupe n'a plus donné de nouvelles depuis mardi soir. D'où un survol ce matin en hélicoptère.
Il y a des traces de matériel qui ont été repérées au pied de la paroi et donc ils ont dévissé tout le long de la paroi. Enfin, c'est le scénario le plus probable.
Une avalanche datant de mercredi donc. Scénario probable, mais sans certitude, on ne le saura peut-être jamais, explique Stéphane Benoît, pour qui les 3 alpinistes sont forcément décédés. La recherche des corps va débuter demain, organisée par les secours népalais.
Explication signée Agathe Mahué. La Ligue nationale contre le cancer réclame l'interdiction de fumer aux abords des établissements scolaires, appel lancé par son président, le professeur Daniel Nizri, alors que débute demain le mois sans tabac, une opération menée tous les ans en novembre. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable. En France, il tue 75 000 personnes par an. En football, sur les pelouses de la Ligue 1 à présent, plusieurs matchs aujourd'hui. Nice s'est notamment imposé cet après-midi 2-1 face à Angers. Bordeaux a battu Reims 2-0. Et puis Marseille affronte ce soir Clermont, un match à suivre à partir de 20h45. On y reviendra d'ici 1 heure dans le journal des sports. Mais dans un instant, place à la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et on jette un œil sur le ciel avec Jean-Michel Golinski.
Cette journée de la Toussaint va ressembler à peu de choses près à une journée classique du mois de mars, avec un vent particulièrement turbulent sur les zones littorales. Avantage, il va progressivement dégager le ciel des bords de la Méditerranée. Ensuite, avec un ciel très variable ponctué d'averses sur les autres régions, averses qui seront plus fréquentes et parfois orageuses à proximité de la Manche, et enfin dans des températures plus fraîches que la veille, sauf dans le quart sud-est où les valeurs seront stables. Sur les autres régions, la baisse sera quand même comprise entre 4 et 7 degrés, une fraîcheur accentuée par le vent, bref une journée qui ne sera finalement pas très agréable.
Merci beaucoup Jean-Michel Golinski, c'était la météo.